Notre espérance est en Dieu, que chacun de nous reçoive de lui la grâce, la miséricorde et la paix. Et pour cela, c'est vraiment une force d'être ainsi rassemblés pour célébrer Dieu, lui dire notre louange et pour nous ouvrir ensemble à son souffle de vie. Nous chantons Dieu avec le premier chant que vous trouverez dans le petit livret inséré au début du psautier français et qui va nous guider tout au long de ce culte. Seigneur, que tous s'unissent pour chanter ton amour.
Nous louons Dieu.
Nous te bénissons, ô notre Dieu, d'être celui qui nous appelle pour être tes serviteurs. Nous te louons, ô notre Père, de regarder tous les hommes avec pitié et bienveillance, et de ne pas être fâché par nos difficultés et nos doutes. Loué sois-tu, ô Seigneur Dieu, toi qui chaque jour veux nous faire grandir et qui jamais ne nous abandonne à la tristesse ou à la solitude. Béni sois-tu, car tu places le pardon et la résurrection sur notre chemin. Car avec toi, rien n'est jamais perdu et tout est de nouveau possible. Car tu aimes ta création et ce monde éternellement. Amen.
Et nous poursuivons notre louange par le chant du psaume 8. Dans le psautier français, nous chanterons les strophes 1, 2 et 6 du psaume 8. Prenons place et écoutons Clément se faire retentir quelques paroles de l'Évangile selon Matthieu qui seront pour nous l'expression de la volonté de Dieu.
Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs.
Nous nous unissons dans la prière avec Héloïse.
Nous avons souvent voulu être servis au lieu de servir. Nous avons souvent voulu être le premier en considérant les autres comme nos esclaves. Nous vivons souvent loin de toi, loin de ta parole, loin de ces paroles qui nous aident à devenir plus humains. Pardonne-nous. Aide-nous à changer. Aide-nous à faire plus confiance à l'Évangile. Rends-nous capables d'aimer vraiment. Amen.
Et voici des paroles issues du livre du prophète Jérémie qui peuvent être comme une réponse à notre prière.
Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là à son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je me souviendrai plus de leurs péchés.
Au bénéfice de cette nouvelle alliance dont nous avons entendu à nouveau les termes, nous pouvons exprimer notre foi en ces termes.
Dieu est amour. Par amour, Dieu, notre Père, a créé le monde. Son Fils, Jésus-Christ, est mort et ressuscité. Pour que l'amour naisse au cœur de tous les mondes, son Esprit nous rend responsables et libres pour vivre de cet amour. Nous croyons que Dieu nous appelle aujourd'hui comme chaque jour à répondre à son amour, dans l'Église comme artisan de vérité et de pardon, parmi nos contemporains comme artisan de justice et de paix, dans son royaume qui vient où l'amour éclaire toutes choses. Dieu est amour, c'est ce que nous croyons. Amen.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Dans le récit que je vais vous lire, on voit Jésus insister sur quelque chose qui a l'air d'être hyper important pour lui. Et ce qu'il n'y a de rien de plus important, ça semble être de bien se laver les pieds. De se laisser laver les pieds par le Christ d'abord, et puis ensuite de se laver les pieds les uns les autres. Alors je vais vous lire ce récit. C'est dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 13. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, il ôta ses vêtements, il prit une serviette dont il s'entoura, et ensuite il versa de l'eau dans une cuvette et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec la serviette qu'il avait à la ceinture. Il arriva donc à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ? Jamais de la vie. » Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'as point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit alors « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Et Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver sauf les pieds, mais il est entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » Il connaissait en effet celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds et après avoir repris ses vêtements, Jésus se mit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Et si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns les autres. » Alors manifestement, cette idée de laver les pieds, c'est quelque chose d'important dans l'Évangile selon Jean. En effet, au chapitre précédent, il est aussi question de laver les pieds, mais cette fois-ci, c'est Marie, une proche amie de Jésus, qui va, quelle idée incroyable, de lui laver les pieds avec du parfum et d'essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Alors je vais vous lire ce deuxième récit, c'est donc un peu avant, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où était Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. Et on lui fit là un grand repas. Marthe servait et Lazare était avec eux à table avec Jésus. Marie prit 500 grammes de parfum de nard pur de grand prix et elle en répandit sur les pieds de Jésus et elle essuya ses pieds avec ses cheveux et la maison fut tout entière remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, celui qui devait le livrer dit alors « Mais pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 deniers et les donner aux pauvres ?» Alors il disait cela non pas qu'il ait du souci pour les pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laissez-la garder ce parfum pour le jour de mes obsèques. Vous avez toujours les pauvres avec vous. » Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter le psaume 91, toujours dans le psautier français, qui demeure auprès du Seigneur à l'ombre de sa grâce. Les strophes 1, 4 et 5, donc du psaume 91. Thank you. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous sachions où aller même quand nos chemins se perdent, et que faire quand notre avenir est incertain, et que pouvoir quand nous sommes au bout de nos forces. Seigneur de notre espérance, nous te cherchons par la réflexion, par la méditation de ces témoignages anciens qui sont dans la Bible. Oui, nous t'espérons, ô toi, source de nouveauté de vie. Alors c'est vrai que c'est étonnant. Pourquoi insister sur cette question de pied dans l'évangile selon Jean? Comme le remarque l'apôtre Pierre, pourquoi ne pas parler plutôt de ce que le Christ nous apporte dans la purification de notre tête pour avoir de belles idées, ou pour la purification de nos mains pour faire de belles choses, de beaux actes? Pourquoi ne pas insister peut-être sur le fait de bien nous laver les dents pour pouvoir mieux manger, nourrir notre être? Ou de nous laver les yeux pour purifier notre regard, pour bien discerner les choses, ou pour nettoyer nos oreilles, pour bien entendre, ou purifier notre cœur, pour mieux aimer plus véritablement. Non, dans ces textes, il n'y a rien de plus important au monde que de bien se laver les pieds. Alors il s'agit bien sûr d'un symbole pour parler de quelque chose de vital pour le monde et pour nous, mais quoi ? Alors il faut faire un peu une enquête, chercher les plus petits indices dans le texte pour découvrir le mobile, finalement, de ces gestes. Alors ce geste que nous avons ici de laver les pieds les uns des autres est souvent interprété comme un signe d'humilité. À l'époque, tout le monde marchait pieds nus, bien sûr, ou bien avec des sandales dans la poussière, et donc on avait des pieds fort sales en arrivant chez les gens. Et les personnes riches, elle faisait nettoyer les pieds de leurs invités par un esclave pour que ça soit plus agréable, un peu rafraîchir les pieds. Et même si on ne connaît pas cette coutume qui avait lieu à l'époque, évidemment, le geste de s'abaisser à quatre pattes devant quelqu'un dans la poussière pour lui laver les pieds, c'est de toute façon un humble service, de toute façon, un geste d'humilité, c'est vrai. Alors c'est important pour comprendre le geste de Marie. Et puis le geste de Jésus devant ses disciples quelques jours plus tard, oui, ça demande de la simplicité de faire ce genre d'action. Alors c'est très bien, mais je ne pense pas que ce soit le sens profond, la leçon de ces textes, comme si la morale de cette histoire, c'était de faire preuve d'humilité, comme s'il n'y avait rien de plus important au monde. Parce qu'en effet, Jésus n'est pas particulièrement humble, en fait. En particulier dans ce texte, quand il dit à Pierre qu'il ne comprend rien et puis qu'il insiste ensuite pour que Pierre, finalement, soit un peu forcé à accepter ce que Jésus propose. Jésus n'est pas humble non plus quand il dit ensuite à ses apôtres qu'effectivement, il est leur Seigneur et leur Maître, parce que c'est vrai qu'il l'est. L'humilité, en fait, n'est pas vraiment une caractéristique de la manière d'être de Jésus. Alors, bien sûr, il n'est pas pour autant orgueilleux, mais il a conscience de ce qu'il peut apporter dans le monde, heureusement d'ailleurs, et il l'assume, mais tout en restant simple, c'est-à-dire s'il y a un boulot ingrat à faire, et il le fait, parce que sa dignité, elle n'est pas dans une posture de façade, si vous voulez. Et quand Marie, elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux, en fait, le sens profond de ce geste n'est pas l'humilité. Parce que sinon, Jésus aurait relevé Marie, car il ne veut pas du tout, Jésus, se faire prendre comme un roi et puis humilier les autres à son service. Dans les restes de l'Évangile, quand on voit quelqu'un se jeter aux pieds de Jésus ou quand quelqu'un lui propose de le suivre comme un bon petit mouton bien sage, Jésus refuse en général. Il est spécialiste pour remettre au contraire les gens sur pied, les remettre debout. Ce qui veut dire littéralement, le même mot, c'est le même mot, le sens du mot « ressusciter » en fait. Et puis Jésus les encourage à suivre leur propre cheminement, pas à être des bons petits moutons bien sages en ne réfléchissant pas par eux-mêmes. Souvent Jésus dit « lève-toi et va, va sur ta propre route, ton propre chemin, ta foi à toi t'a sauvé ». Et donc le geste de Marie, ce n'est pas un geste d'humilité, c'est au contraire un geste de courage, de force. Elle qui était plutôt effacée, en fait, dans le reste de l'Évangile, elle ose, devant tout le monde, faire un geste tout à fait surprenant, inattendu, un geste prophétique, de mettre du parfum sur les pieds de Jésus et de les essuyer. Alors pourquoi ? Le geste de Marie pour Jésus est un geste de reconnaissance. Un geste de reconnaissance de ce qu'il est et un geste de reconnaissance pour ce qu'il lui a apporté. Et manifestement, ce geste de reconnaissance de son amie Marie va frapper Jésus, puisque c'est un geste semblable qu'il va retenir pour résumer l'essentiel de son témoignage pour ses plus proches disciples, alors qu'il lui reste quelques heures pour dire l'essentiel, pour laisser son testament spirituel à ses plus proches apôtres. C'est cela, ce geste-là, ce geste de Marie qu'il va garder finalement. Et cela montre l'importance du fait d'avoir un geste de reconnaissance sincère pour ceux qui nous ont apporté quelque chose. Même Jésus est transformé par la reconnaissance de Marie et par son geste. En choisissant d'honorer les pieds de Jésus, elle désigne d'une manière symbolique ce qui a été pour elle l'essentiel de la résurrection que Jésus lui a apporté, qu'elle a reçu de Jésus. Et ce n'était pas évident parce qu'effectivement, Jésus apporte beaucoup de choses différentes pour nous faire évoluer, pour nous améliorer. En effet, Jésus, il essaye d'apporter le salut à toute personne qu'il croise, mais aussi le salut pour toute la personne qu'il croise. Il ne se contente pas d'agir dans le domaine de la foi. Ce texte nous montre que Jésus avait une réserve d'argent pour aider les pauvres, qu'il puisse avoir un toit, qu'il puisse avoir de quoi manger. Et d'ailleurs, Marthe, la sœur de Marie, a bien saisi l'importance de cette dimension de l'action de Jésus et elle manifeste sa reconnaissance en allant dans le même sens, en l'offrant un grand banquet pour Jésus, pour tout son entourage et pour l'environnement. Jésus aide aussi les malades du corps et de l'âme. Il regonfle, il remet sur pied, il réanime même Lazare, le frère de Marthe et de Marie. Et Lazare est là, lui aussi, avec ses sœurs, mais dans une reconnaissance silencieuse. Chacun son style, c'est déjà une sorte de reconnaissance d'être là, présent, à côté de celui qui nous a apporté quelque chose. D'ailleurs, c'est une chose que Jésus a vraiment apporté aussi, être présent, être là auprès des autres. Il allait au-devant des gens et il prenait le temps qu'il faut, ni trop ni trop peu, pour être auprès d'eux, parfois silencieusement d'ailleurs, comme quand il mange à la table d'un intégriste. Il savait accueillir et il savait aussi les détacher, ces personnes qu'il avait accueillies, les détacher de lui afin de les aider chacun à être lui-même. Et puis bien sûr, Jésus agit aussi dans le domaine de la foi, en annonçant l'amour de Dieu pour chacun, pour tous. Et il reprend ce message de son cousin Jean-Baptiste, qui nous appelle à nous sentir purifiés par Dieu, lavés tout entiers de nos péchés, de ce qui ne va pas, par le pardon et par l'amour de Dieu. Et puis Jésus fait aussi de la théologie, de la philosophie, de la morale, pour nous aider à vivre en étant quelqu'un de bien. Et cette Marie qui lave les pieds de Jésus avec du parfum, nous le savons par ailleurs, elle adorait s'asseoir aux pieds de Jésus pour écouter ce qu'il enseignait, ce qu'il avait à dire. Alors tout cela est très bien, Jésus apporte plein de choses dans différents domaines, mais Marie, dans son geste, ce n'est pas la solidarité que Jésus pouvait avoir, ni les soins qu'il pouvait apporter, ni cette purification de notre relation à Dieu en étant en totale confiance devant lui, ni son enseignement pour lequel elle remercie Jésus. Elle dit sa reconnaissance à Jésus en honorant ses pieds, finalement, en oignant, en faisant une onction d'huile de ses pieds, comme si c'était en eux qu'elle reconnaissait le point où Jésus est le plus le Christ, finalement, le plus sauveur pour elle, le plus sauveur pour le monde dans ses pieds. Alors qu'est-ce que Marie honore ainsi? De quoi est-elle le plus reconnaissante, finalement? Parce que les pieds, ça évoque symboliquement plusieurs choses. D'abord, notre capacité à avancer, bien sûr. Comme il est dit un peu plus loin, dans le même évangile, Christ est le chemin. Et Marie a dû sentir que Christ était source d'un cheminement pour elle, d'une mise en route pour elle, et pour nous, bien sûr. Et puis les pieds, c'est aussi notre point de contact avec le sol, avec le monde. Et au moment où Jésus va quitter le monde, il insiste là-dessus, parce que c'est vrai que Jésus avait une façon d'être au monde qui était fidèle et vraie. Christ incarne ainsi la vérité, la fidélité. Et puis dans la Bible, le pied désigne, excusez-moi si je dois le dire tel que c'est, le pied est un mot détourné pour parler du sexe. Alors bien sûr, il n'est pas question de sexe dans cette histoire, mais du fait que le Christ est source de vie, que par lui peut venir quelque chose qui féconde notre existence. Et je pense que Marie a senti cela, quelque chose qui en Jésus-Christ lui apportait une nouvelle dimension, comme une nouvelle naissance finalement, pour le monde et pour nous. Alors c'est vrai qu'il vaut mieux avoir de quoi manger, il vaut mieux être en forme, il vaut mieux être intelligent, il vaut mieux être cultivé et sage, il est bon de se sentir aimé de Dieu et de pouvoir l'aimer, se savoir digne de vivre et d'être heureux. Mais l'essentiel, en fait, chaque jour, c'est plutôt dans une bonne dynamique de cheminement. Parce que quel que soit notre niveau, alors on est dans quelque chose de vivant, on est dans une dynamique. Et il y a aussi quelque chose d'important dans une certaine façon d'être au monde, pas simplement être un être parfait, bien intelligent, bien gentil, mais que ça se manifeste dans le monde, finalement, en relation avec les autres, en relation avec ce monde qui a tant besoin aussi d'actes de création. Et puis c'est important aussi d'être source de vie, source de nouveauté de vie autour de nous. Alors c'est tout cela qu'admire Marie dans son ami Jésus. Mais c'est plus que de l'admiration qu'elle a pour lui, c'est de la reconnaissance, dans la reconnaissance pour ce qu'il lui a apporté dans ces trois dimensions. Et par rapport à sa sœur Marthe, c'est vrai que Marie était un peu effacée, moins active, moins efficace peut-être, et peut-être qu'elle comprend plus lentement finalement. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est particulièrement reconnaissante de l'évolution qu'elle a pu vivre grâce à Jésus. Et c'est finalement elle qui saura discerner l'essentiel symbolisé par les pieds. Et c'est elle, Marie, qui trouvera le geste qui touchera tellement Jésus, finalement, qu'il va reprendre plus tard ce geste comme si lui, le maître, s'était mis à son école, à elle, Marie. Alors les autres disciples, ils ne comprennent pas trop visiblement ce geste de Marie. Alors je ne parle même pas de Judas, bien sûr, qui s'intéressait par-dessus tout à son propre intérêt, mais je pense aux autres disciples. Les évangiles de Matthieu et de Marc nous disent qu'ils ne trouvent que ce n'était pas une tellement bonne idée, finalement, de répandre 10 000 euros de parfum, parce que c'était à peu près le prix de ce parfum, 300 deniers, même sur Jésus, même sur ses pieds, à lui, quoi. Il trouve que la solidarité matérielle avec les pauvres serait plus utile que ce geste de reconnaissance qu'à Marie. Et il critique. Alors à court terme, ils ont raison, bien sûr, la solidarité est fondamentale, mais la reconnaissance, ça n'a l'air de rien produire, mais en fait, c'est d'une très grande fécondité aussi. Et la reconnaissance, ça agit comme un démultiplicateur. Par son geste, Marie nous aide à reconnaître ce que Jésus peut nous apporter encore aujourd'hui, finalement, comme cheminement, comme source de vraie présence au monde, et comme vie, finalement, comme mise en vie de notre existence. De sorte que peut-être même 2000 ans après, bien des personnes pauvres de toutes sortes de pauvreté vont pouvoir être secourues par des personnes qui auront médité sur ce geste de Marie et sur ces 300 deniers de parfum pour des pieds. Et la preuve, c'est que déjà, le geste de Marie fait réfléchir les apôtres qui étaient là bien sagement à suivre. Et ils se mettent tout d'un coup à imaginer des actes de solidarité, de générosité, qui leur sembleraient être un bon geste de reconnaissance pour la générosité de Jésus, en fait. Alors c'est vrai qu'ils sont apparemment bien meilleurs pour critiquer Marie que pour agir par eux-mêmes. Mais bon, c'est déjà ça, c'est déjà une amorce de réflexion. Et puis le propre de la reconnaissance, c'est de ne pas être obligatoire, finalement, sinon ce ne serait que de la politesse. Alors c'est vrai que c'est bien de se sentir obligé par la politesse de dire au moins merci, mais un geste de reconnaissance, c'est dans la gratuité, il n'y a rien d'obligatoire, et Jésus n'oblige pas ses apôtres, les disciples, personne, à faire preuve de reconnaissance. Il espère simplement qu'on va en vivre. Alors la reconnaissance de Marie est généreuse, rien ne lui obligeait à faire preuve de reconnaissance, mais elle est également courageuse. Car on a peur d'être ridicule, finalement, en exprimant notre reconnaissance avec nos mots maladroits, avec notre cadeau dont on a l'impression souvent qu'il n'est rien, qu'il est futile par rapport à ce que l'autre nous a apporté, ou au contraire, voulant que ça soit un peu à la hauteur, nos cadeaux exagérés, quoi, finalement, comme celui de Marie. Alors cela demande d'autant plus de courage que Marie, elle ne fait pas son geste de reconnaissance comme en cachette, mais elle veut que ce soit offert en public, pour que son geste de reconnaissance pour Jésus offre en fait deux choses à Jésus. D'abord un merci, mais que ce soit aussi qu'elle offre aussi un service à Jésus, un service qui prolonge le témoignage de Jésus par une prédication en acte, en geste, qui dit le salut de Dieu. Mais Jésus, il sait lire le geste de Marie. Et il dit d'abord au Schtroumpf grognon d'arrêter de critiquer. Bien sûr, le geste de Marie est discutable, mais l'attitude des apôtres est à l'exact opposé de la reconnaissance. Leur attitude est aux antipodes de la grâce. Parce que la grâce, c'est faire du bien sans avoir la nécessité de le faire. Eh bien, eux, ils critiquent du bien, alors que ça ne leur apporte rien de critiquer. C'est étonnant quand même comme démarche. Mais comme toujours, Jésus ne s'arrête pas à leur méchanceté, il cherche à les faire évoluer en expliquant le geste de reconnaissance de Marie. Et ce que dit Jésus, comme souvent, est assez bizarre pour les faire réfléchir finalement. Voilà ce qu'il leur dit. « Laissez-la garder ce parfum pour le jour de mon enterrement. » Alors c'est curieux parce que les 10 000 euros de parfum, ils ont été répandus sur les pieds de Jésus, et puis il y en a la moitié qui imprègne les cheveux de Marie. Ça ne va pas être facile pour les faire re-rentrer dans le flacon, qui d'ailleurs est brisé, pour le garder pour l'enterrement. Donc c'est d'un autre parfum que Jésus parle, finalement. Un autre parfum de grand prix, un autre parfum fidèle. Pistikos, nous dit ce texte. Comme un parfum, comme le parfum, la reconnaissance, le geste de reconnaissance est un parfum finalement. Parce qu'un parfum, ça, même quand la personne est passée, eh bien, on en garde encore finalement un peu la trace. Eh bien, la reconnaissance, c'est comme ça, quand la personne est passée, on garde encore la trace, le souvenir, le parfum de ce qu'elle a apporté, de ce qu'elle a fait. Et le geste de reconnaissance, c'est même encore plus que cela, parce que finalement, le geste de la reconnaissance, ça réactualise ce qui a été source de vie précédemment, ça le réactualise dans le présent pour que ceux qui y assistent finalement puissent en bénéficier eux-mêmes, retrouver ce qui a rendu Marie vivante, mais même au-delà de la mort de Jésus. Jésus, il reçoit ce geste, et puis quand il sent monter la jalousie des responsables de l'institution, qui n'aiment jamais finalement les gens prophétiques, il comprend que ça va mal tourner et il est urgent de transmettre l'essentiel à ses disciples. La reconnaissance de Marie le touche et son témoignage l'intéresse. C'est surprenant toujours d'apprendre, par exemple, d'un adulte ce qui a pu le toucher 40 ans plus tôt quand il était enfant. Peut-être un geste, peut-être une parole de ses parents, d'un professeur. Tel geste, telle parole a pu être le déclencheur de quelque chose. Et dans son geste de reconnaissance, Marie a cherché à dégager ce qui l'avait bouleversé, ce qui l'avait rendu plus vivante en Jésus, en son ami, son sauveur. Et cela aide Jésus finalement à préparer un dernier geste qui soit vraiment symbolique pour ses apôtres, un geste qui sera comme son testament, un geste qui n'est pas simplement une parole, mais qui est un acte finalement invitant aussi à transformer notre façon d'être. Ce geste, c'est celui du lavage des pieds. Et Jésus ajoute, pour expliquer ce geste, encore quelque chose d'étrange. Celui qui a été baigné n'a pas besoin que de se laver les pieds, finalement. Pour le reste, il est entièrement pur. Comment est-ce possible, si quelqu'un s'est baigné entièrement, comment est-ce qu'il aurait oublié de nettoyer ses pieds, finalement? Et Jésus dit que oui, nous sommes purs, en fait, mais que quand même, il faut nous laver les pieds. Sinon, nous ne serons pas partie prenante de sa vie, de son être. Alors c'est vrai, nous sommes déjà purs aux yeux de Dieu par son amour. Il nous regarde ce qui est bon en nous, il nous regarde ce que nous pourrions devenir. Même si nous sommes un peu arrogants, comme Pierre qui dit « Non, 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 moi je trahirai jamais, je ne serai pas comme les autres qui font n'importe quoi. » Si nous sommes un peu comme ce Pierre qui respecte Jésus comme Seigneur, son titre, mais qui refuse de se laisser bouleverser dans ce qu'il croit absolument savoir sur Jésus-Christ. Oui, il faut que Jésus nous lave les pieds. Et c'est souvent les uns par les autres qu'il nous invite à le faire, tour à tour, mutuellement, un pied après l'autre, et être enfin vivant, fidèle et en marche. Amen. Alors un grand merci à Jean-Dominique Pasquet. On remarque qu'effectivement l'orgue a été donc réharmonisé, déjà le travail a bien avancé, et c'est vrai que la tonalité et puis l'équilibre des forces entre les différents jeux a été vraiment bien travaillé. Alors nous pouvons chanter maintenant le cantique 69 dans le petit recueil Louange et prière. Grand Dieu, nous te bénissons, donc le Tédéum de saint Ambroise. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Vous pouvez prendre place. Alors sur la table à la sortie, vous trouverez plein d'informations, le texte des prédications que nous vous proposons, James et moi, et puis un papier pour vous inscrire, pour recevoir les informations par exemple, vous proposer pour donner un coup de main ponctuel ou régulier pour la vie de l'oratoire. C'est vrai que c'est fondamental que nous puissions ainsi faire vivre de mille façons l'oratoire. Alors aujourd'hui, c'est l'éducation biblique, vous l'avez vu, et donc on va rester ensemble jusqu'à 16 heures avec les plus grands, et puis les tout petits de l'éveil biblique, eh bien là, ça va se terminer après le culte. Il y a en même temps le repas paroissial, donc en face, si vous n'êtes pas inscrit, il y a quand même moyen de participer, vous êtes bienvenus pour ce repas. À la sortie, vous trouverez aussi des éclaireuses, les goélands, qui donc ont préparé des gâteaux et vous pouvez donc les acheter au profit de leur clan pour qu'elles puissent donc rééquiper un peu leur clan. À la comptoir de librairie, c'est sympa, merci pour le service de ceux qui, dimanche après dimanche, tiennent ce comptoir. Et c'est vrai que ça invite à la lecture de la théologie, et puis ça invite aussi à lire peut-être de belles choses. Il y a un nouveau livre, donc le Cantique des Cantiques, illustré par notre amie Nicole Dupont, qui est ici présente, et qui est publié, vous pouvez le regarder à la sortie. À propos des artistes protestants, demain à midi, il y a le groupe protestant des artistes qui se réunit, mais on peut se joindre à eux. Il y a un petit culte et puis une conférence sur l'art-thérapie. Mercredi soir, il y a le groupe biblique œcuménique avec mon collègue prêtre à Saint-Eustache, Jérôme Prigent, et moi-même, sur donc l'évangile selon Jean, chapitres 15 et 16, sur la joie parfaite que Jésus nous propose. Donc ça, c'est mercredi soir à 20h, en face, rue de l'Oratoire, une fois sur deux à Saint-Eustache. Jeudi soir, il y a la répétition du chœur, comme tous les jeudis, on peut encore se joindre à eux, je pense. Dimanche prochain, il y a ici le culte avec la prédication par James. Et puis déjà, on peut penser à la semaine de Pâques, parce que ça va venir très vite. Donc le 17 avril, il y a le jeudi saint au foyer de l'âme, vendredi saint ici, tous les deux à 19h. Et puis le samedi saint, c'est à 18h, il y a donc Chantons Pâques, on prend les cantiques les plus connus, nos préférés sur le temps de la Passion et de Pâques, et on les chante ensemble à plein poumon, ce qui est toujours un grand moment. En particulier en terminant peut-être sur « À toi la gloire », bien qu'on ne soit pas forcé de toujours prendre ce chant. Et puis il y a le culte de Pâques, bien sûr, dimanche à 10h30, comme tous les dimanches que Dieu fait. Alors maintenant, c'est le moment de l'offrande, offrande pour l'Église, pour que l'Église puisse jeter son témoignage dans le monde pour ceux qui en ont tant besoin. Nous prions Dieu. Ô notre Dieu, sois vraiment béni pour ta dynamique de vie, dynamique qui dépasse tout ce que l'on peut en dire. Accorde-nous de la recevoir précieusement en nous et qu'elle y purifie la source de nos pensées, qu'elle arrange nos désirs, qu'elle mette tout cela en ordre. Que ton puissant amour l'emporte sur notre faiblesse, notre peur, nos hésitations. Et que ton Saint-Esprit nous inspire des actes nouveaux, qu'elle nous fortifie, qu'il nous donne la joie. Et qu'ainsi nous puissions aimer en parole et en acte notre prochain, celui que tu nous confies pour que nous l'aidions un peu, et celui que tu nous donnes aussi pour nous aider un peu, que nous sachions recevoir ce geste, cette parole qui nous remet en route. Et d'un même cœur, nous t'adressons cette prière que Jésus nous a laissée. Prière de confiance dans notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonne pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons la bénédiction qui vient de la part de Dieu. Bénédiction qui nous donne une nouveauté de vie et aussi une vocation, la nôtre, pour avancer dans ce monde. L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Oui, que tout être te bénisse, ô Dieu de paix.